Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du NRV La Suite France Inter Plus de Chris. Toute cette semaine, on a rendu hommage à cette grande voix de radio disparue le 19 novembre 2009. C'est la première Fipette qui est devenue l'une des piliers de l'Oreille en Coin et la productrice de nombreuses émissions. Ce soir, fin de série avec deux portraits sensibles. D'abord, le champion du monde de catch poids moyen, René Benchemoul, une archive du 26 février 2001. Il a évolué dans les hautes sphères du catch pendant 30 ans, perdu moins de 20 fois sur plus de 5000 combats. Il va arrêter à l'âge de 49 ans au sommet de sa gloire. Chris le rencontre devant la chemiserie qu'il tient avec son frère et son épouse. Le tigre de la lutte sensible se dévoile. Plus de Chris, soirée intime sur France Inter.
Mon père était chauffeur de taxi, mais en même temps, il était déjà catcheur. C'était, surtout à l'époque, c'était pas des vrais professionnels, voyez-vous. Il fallait avoir un métier à côté. Et on faisait, c'était, à l'époque, c'était ça le sport.
Et oui, et René Benchemoul, ancien champion de catch, 30 ans de gloire, 5000 combats, moins de 20 défaites, me reçoit devant la chemiserie qu'il tient avec son frère et son épouse, boulevard Saint-Martin à Paris. Il est tiré à quatre épingles, il a un bon sourire, et je lui tends la main prudemment car j'ai peur qu'il la broie. Mais non, René Benchemoul est un homme doux, élevé avec amour par une maman en or.
Ah, ma mère, c'était une femme formidable. Elle était arabe, oui, elle était une femme aimante, gentille, faisant la cuisine à merveille. Ah oui, oui. Elle,
qu'est-ce qu'elle vous faisait?
Toute la cuisine française et puis alors des plats d'Afrique du Nord aussi. Ah oui, très bien.
Et alors vous, vous étiez comment quand vous étiez gamin?
J'étais un garçon qui bougeait beaucoup, mais bien élevé.
Oui.
J'aimais aller à l'école. J'étais un pas mauvais élève du tout. J'étais toujours dans les 10 premiers. Puis j'aimais ça, tout ce qui était le français.
Oui.
Ah oui, oui. J'étais le premier en rédaction, tout le temps. Ah oui, oui. Si on me donnait un sujet, je le développais et à tous les coups, j'étais le premier.
Moi, je vois un gamin plutôt gentil, plutôt bien élevé, plutôt sage.
Oui.
Pas bagarreur.
Mais, j'étais un petit peu bagarreur quand même. Ah oui, un petit peu, mais pas à l'excès. Non, je courais énormément.
Ouais.
Je grimpais aux arbres. Oui, dans ma rue, c'était la villa du Bel Air à Paris. Ouais. Il y avait des arbres et j'étais toujours en train de grimper dans les arbres quand j'étais pas en train de courir dans la rue.
Donc vous connaissez tous les arbres de la rue?
Ah, je les connais bien.
C'est vrai?
Oui. Je grimpais dans les branches, tout. Mais je faisais vraiment bien.
Elle devait avoir peur, votre mère.
Elle ne me voyait pas.
Ah bon?
Si elle m'avait vu, je ne l'aurais pas fait. Et dès ma tendre enfance, finalement. À l'âge de 7 ans, j'allais avec mon père dans les salles d'entraînement, ou alors quand nous habitions à côté du bois de Vincennes, mon père allait régulièrement faire son footing autour du lac Daumesnil, et je le suivais.
Mais ça devait être impressionnant quand même, le père catcheur. Vous l'avez vu dans des matchs?
Oh, bien sûr que je l'ai vu. Mais ça me faisait peur de le voir.
Ben oui, je pense que l'impression sur un enfant,
oui,
c'est terrible.
Peur de le voir, ça me faisait plus peur quand ça a été à mon tour de monter dans le ring. J'avais peur pour lui, bien sûr.
Il avait des costumes?
Des costumes?
Des costumes de catcheur, souvent on a des habits.
Ah non, il n'y a pas de costume. Moi j'avais un slip de lutte, c'est tout. Hein. J'arrivais en robe de chambre, comme tout le monde, hein, comme les boxeurs.
Non, parce qu'il y avait des catcheurs masqués, des choses comme
non,
ça.
Non, moi je n'ai pas connu cette époque-là.
Oui, d'accord.
Non, ça c'était une époque que je préfère. Je préfère la mettre de côté parce que j'ai pas aimé du tout.
D'accord. Qu'est-ce que vous imaginiez que vous alliez faire quand vous étiez petit? À quoi rêviez-vous?
Écoutez, j'étais doué pour tous les sports, tout jeune. Oui, je savais tout faire. Il suffisait qu'on me fasse voir quelque chose pour que je le fasse très vite bien.
Et vous imaginiez que vous alliez devenir catcheur?
Non.
Pas du tout?
Non. Surtout que mon père ayant été catcheur avant moi, bien souvent, revenait en se tenant le dos, en boitant, en ayant mal au bras. Et forcément, c'est un métier, un sport où on se fait mal, bien sûr.
Et votre mère, elle supportait bien?
Ma mère, elle supportait très mal. Et elle me disait toujours, à l'époque, quand j'étais enfant, « Ah, mon fils, tu feras jamais un sport comme ça. » Et moi, je disais, « Ah non, maman, bien sûr. » Quand on me voyait avec mon père, on lui disait, mais alors, voilà le fiston, alors il va faire du catch, lui aussi. Et mon père disait, oh, pensez-vous, non, il n'en fera pas, il est douillet.
Vous étiez quartier douillet ?
Non, pas du tout, mais comme ma mère nous disait, tu ne vous ferez jamais, ce sport-là, je m'imaginais que ce n'était pas un sport pour moi, quoi. Voilà.
Oui. Mais vous avez commencé la lutte à quel âge ?
Oh, assez jeune, parce que je suivais mon père, partout. Ouais. Alors, j'ai connu les tapis de lutte très jeune. Ouais. Oui. J'ai aimé ça. Bon, du reste, à l'époque, on commençait toujours par la lutte avant de faire du catch.
Mais votre mère, elle disait rien.
Non, mais elle savait pas trop que ce que je faisais quand j'allais avec mon père. Elle savait pas trop. Non. J'allais m'entraîner sans lui dire. Ah non. Si je voulais. Ah mais non, elle n'aurait pas voulu.
Et c'est vrai qu'elle n'aurait pas voulu qu'il soit catcheur, Madame Benchemoul, mère. Mais que faire quand on a un gamin qui est doué pour tous les sports et qui admire autant son père, catcheur amateur, et que sa mère règne sur la cuisine. Portrait sensible, René Benchemoul, ancien champion du monde de catch poids moyen.
Comme mon père avait déjà fait son service lui-même aux pompiers de Paris, j'ai choisi les pompiers de Paris pour faire mon service militaire.
Et ça vous plaisait d'être pompier ?
Ben oui, j'ai bien aimé, j'ai passé 3 ans là, oui, mais en même temps, je m'entraînais, je faisais de la lutte.
Mais vous ne m'avez pas parlé des pompiers, vous êtes allé sur des incendies, tout ça ?
Oh, bien sûr, ah, oui, j'ai fait énormément de décalages, j'ai fait des...
On appelle ça des décalages ?
Oui, décalages, ça veut dire des sorties, quoi. Oui. C'était le feu, c'était les inondations, c'était plus ou moins les accidents, les gens qui étaient en péril, quoi. Mais j'aimais bien. Oui. J'ai aimé faire ça.
Vous n'aviez pas peur ?
Je me sentais utile. Mais j'aimais bien. Il y avait un entraînement, il y avait un état d'esprit qui était bien. Et là, en terminant mon service militaire, comme je m'étais entraîné avant, je suis passé professionnel en catch.
Ah, d'un coup. Alors là, votre mère, vous ne pouviez plus lui cacher.
Ah ben non. Je ne pouvais plus rien lui cacher.
Et quand vous lui avez dit, alors
Que voulez-vous, elle n'était pas contente. Mais finalement, elle était contente, non pas de me voir, parce que c'était le début de la télévision pour le catch, et parce qu'elle avait toujours peur, alors elle n'osait pas me regarder, mais elle a été quand même assez fière de son fils, quoi. Parce que les gens lui disaient « Ah, votre fils, on l'a vu hier, oh là là, et voilà. » Alors ça lui faisait quand même plaisir.
Vous vous souvenez de votre premier match ?
Oui. C'était au Cirque d'Hiver à Paris, ce premier
match. Vous deviez avoir la trouille quand même, le trac.
Le trac, oui, mais le trac de mal faire. Ouais. Bon, je me sentais quand même confiant, mais d'un autre côté, je voulais surtout ne pas déplaire, ne pas réussir, quoi.
Et puis, il ne fallait pas déshonorer le nom de Benchemoul.
Ah, et alors, il fallait que je mette tout le paquet. Puis alors, c'était mon tempérament, en plus. Oui, il fallait que j'ai toujours donné le maximum de moi-même.
Alors, vous étiez comment ? Donc, parce que moi, j'ai des visions du catch que je ne connais pas très bien, avec des costumes incroyables, des masques. Non,
pas. Ça n'existait pas, moi, à cette époque-là. Ça n'existe pas. Ça a été après, c'est arrivé bien plus tard, où des gens qui n'étaient pas forcément de bons catcheurs, avec des costumes un peu bizarres, pour arriver à faire attraction, voyez-vous, et attirer un certain public. Mais ça a pris pendant un certain temps. Mais après, les gens n'étaient pas dupes. Ils voyaient bien qu'ils ne faisaient rien de mieux que beaucoup d'autres.
Et alors, c'est agréable de catcher. Qu'est-ce qu'on sent ? Quelles sont les qualités nécessaires ?
Alors, des qualités, il en faut. Il faut une certaine force, de la détente, de la souplesse, un coup d'œil très acéré, parce qu'il faut faire attention à tout de l'adversaire pour savoir quoi faire, comment esquiver ou quelle est la parade.
J'aime bien parce que pendant que vous me racontez ça, vous avez les gestes et tout.
Ah oui, bon, mais c'est naturel. Hein.
C'est normal, on sent que vous avez beaucoup vécu ça.
Je suis pas en train de vous dorer la pilule, comme on dit.
Non, c'est bien, Et donc c'est assez excitant, alors.
Ah, mais j'aimais beaucoup. Oh, ben, si je n'avais pas aimé beaucoup, je n'aurais jamais réussi à faire ce que j'ai fait. Hein.
Oui, parce que vous avez fait une carrière extraordinaire.
J'ai fait une grande carrière, c'est vrai. Enfin, 30 ans quand même. 30 ans de ring, c'est bien.
Vous étiez une star quand même.
Bon, ben, je ne peux pas dire une star parce que... Voilà. Mais disons que j'étais connu. En France, j'ai été connu, bien sûr. Parce que je donnais tellement, toujours le maximum. Mais c'était ma nature. Je ne me forçais pas. Mais j'étais bon. Il faut dire la vérité. Je ne veux pas avoir l'air de me faire mousser. Mais j'étais bon. Et j'aimais ça.
Portrait sensible, René Benchemoul.
En ce qui me concerne, au moins une heure avant de monter sur le ring, je me faisais des exercices physiques pour échauffer les muscles. Mais en même temps, je pensais. Je parlais à personne, hein. J'étais dans un coin, je parlais à personne. Hein. Et je me mettais en état.
Mais est-ce qu'il faut le détester un peu, son adversaire ?
Non, pas forcément du tout. Oh, non, non, non. On n'est pas obligé de détester ça.
Il faut un peu d'agressivité quand même.
Oui, mais ça vient toute seule. Hein, ça. Ah, oui. Il suffit qu'il vous fasse un petit peu mal. Et ça y est, c'est parti. Vous savez, vous prenez deux enfants. Ils jouent gentiment. Il y en a un qui fait un petit peu mal à l'autre. Et c'est la bagarre.
C'est la même chose.
Mais c'est pareil, vous savez. Alors, si on me faisait un petit peu mal au départ, je devenais plus méchant, évidemment. Mais de tempérament, j'étais plus sportif que méchant. Et j'avais des qualités qu'il fallait. Qualités physiques et puis de mental.
Il avait le physique, il avait le mental. René Benchemoul, l'ancien champion du monde de catch, 5000 combats, moins de 20 défaites, tient aujourd'hui avec sa femme et son frère une chemiserie boulevard Saint-Martin, après 30 ans de gloire. Une gloire qui faisait parfois très mal.
J'ai eu 200 fractures. J'ai tous mes doigts fracturés, par exemple. Wow. Non mais vous, ça je parle bien. Et pas seulement qu'une seule fois. J'ai le menton. J'ai eu des dents cassées par des manchettes. Les oreilles en chou-fleur. Les côtes cassées. Et puis aussi beaucoup de foulures, entorses, élongations. Tout ça alors des quantités de fois.
Mais ça vous fait pas peur ?
Et non, parce que on accepte. Ce qu'on a peur, c'est d'avoir le coup dur, l'accident qui vous empêche de pouvoir continuer. On a peur de ça, mais pour le reste, ça fait partie du jeu.
Mais dans le monde du catch, il y a eu beaucoup de graves accidents.
Ah, des morts. Ah oui, j'ai un des trois qui sont morts, oui.
Et donc vous y alliez quand même, quoi.
Vous savez, vous demandez à un boxeur s'il y va quand même, il va dire oui. Vous demandez à un pilote automobile s'il y va quand même alors qu'il risque sa vie aussi, il va vous dire oui, c'est mon truc.
Et alors, tout le côté chiquet du catch, on en a beaucoup parlé, des matchs truqués. Mais,
oui, et ben, je vais vous dire, j'aurais préféré. Ah oui, si ça avait été truqué.
Oui. Vous n'auriez pas eu 200 fractures.
J'aurais pas été aussi, autant blessé. Hein. Je me serais arrangé pour ne rien avoir du tout.
On vous a jamais fait des propositions?
Non, parce que c'était vraiment chacun pour soi. Chacun voulait être tout là-haut. D'abord, c'est une question de gloriole personnelle, mais parce que ça vous permet de gagner davantage votre vie aussi.
Alors justement, est-ce qu'on gagne bien sa vie? Est-ce que vous gagnez bien votre vie quand vous étiez catcheur?
Vous savez, c'est comme pour tout. Je remplissais les salles et les organisateurs me prenaient quand ils sentaient qu'ils allaient faire du monde. C'est comme tous les gens qui se produisent devant un public.
Vous aimiez être applaudi?
Bien sûr, qui n'aime pas ça? Bien sûr que j'aimais. Oh, bien sûr.
C'est si bon que ça?
C'est surtout applaudi pour avoir prouvé quelque chose. Parce que là, il n'y a pas de triche. Les gens voient quand vous vous donnez à fond. Ils le voient, ils le sentent, et c'est là qu'ils vous applaudissent, vraiment.
Et ils applaudissent. Ils applaudissaient René Benchemou, l'ancien champion du monde de catch poids moyen. Ils applaudissaient, et elles applaudissaient aussi, peut-être, hein?
Mais je pense bien. Et croyez-moi, j'ai su en profiter.
Ah, c'est vrai.
Ah oui.
Ah, vous étiez un tombeur.
Bah, je peux pas.
Vous avez encore beaucoup de charme. Vous avez encore l'œil qui brille.
Vous êtes très gentil. Mais j'ai un peu changé. Non, mais c'est vrai que bon, bah, j'aimais beaucoup la jante féminine.
C'est vrai. Oh, oui. Donc un peu coureur.
J'étais très. Et j'avais quand même une bonne méthode, sans doute, parce que j'ai jamais eu de gros ennuis.
Ah, parce que parfois, vous aviez plusieurs femmes à la fois.
Oh, vous voulez tout savoir, alors là, vraiment. Bah, je veux dire, mais c'est, bien sûr, parce que comme j'allais souvent dans les mêmes villes, ou dans le même, bah, évidemment, bah oui.
Alors, c'est comment, c'est des admiratrices qui venaient vous voir à la sortie?
Souvent, c'était ça, oui, voilà. Des admiratrices.
Est-ce qu'elles aimaient les hommes forts?
Oui, il faut dire aussi, de voir des hommes se battre, ça avait sans doute un certain attrait pour certaines femmes. Je sais pas, vous savez, les fantasmes, on sait pas où ça va se chercher.
Alors, même au lit, on vous demandait de faire le grand costaud?
Non, mais on n'avait rien besoin de me demander. Je faisais ce qu'il fallait.
Vous étiez plutôt tendre ou plutôt brute?
Ah, mais non, j'étais pas une brute, au contraire. Alors là, c'était pour ça qu'elles venaient me chercher, elles étaient déçues, parce que j'ai toujours été tendre.
Donc une vie un peu agitée de ce côté-là?
Ah, très.
Ah oui, très.
Ah oui, oh. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, j'ai une vie de ce côté-là, très bien. C'est pour ça que je me suis mariée si tard. J'ai attendu longtemps, quoi, finalement. Ben, j'ai pas cherché. J'ai attendu d'avoir arrêté du responsable pour me ranger, si l'on peut dire. Hein.
Est-ce qu'elle fait la cuisine aussi bien que votre mère?
Très bien. Ah. Sans doute qu'il fallait ça aussi. Ah. Eh oui.
Et qu'est-ce que vous lui avez trouvé de plus que les autres?
Justement, parce que c'était pas... Elle, c'était une femme qui n'avait pas l'habitude, justement. Elle connaissait même pas hein, le sport, rien du tout. Elle savait pas vraiment qui j'étais.
Elle vous aimait pour vous-même, pas forcément pour votre gloire.
Parfaitement, c'est exactement ça. Elle sait pas parce que je me produisais devant un public que ça l'excitait.
Mais ça a dû lui faire un drôle d'effet la première fois qu'elle vous a vu.
Mais elle m'a jamais vu, elle. J'avais fini. J'avais fini. J'avais terminé le catch. Quand je l'ai rencontré.
Alors justement, quand vous avez terminé le catch, c'est pas évident de se reconvertir. Il y a beaucoup de catcheurs qui sont dans des situations dramatiques.
Oui, mais justement, j'avais prévu. Parce que 20 ans avant d'arrêter, avec mon frère, j'avais déjà acheté une chemiserie. Et comme mon frère était dans le métier, c'est lui qui s'en est occupé.
Donc vous aviez pensé, vous aviez prévu votre reconversion.
Tout à fait. Parce que je savais que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Alors il fallait garder une poire pour la soif. Je savais qu'à cet âge-là, j'arrêterais.
Ah oui, à quel âge vous aviez décidé d'arrêter?
J'avais décidé à 50 ans.
À 50 ans.
Parce que je ne voulais pas faire le match de trop. À 49 ans, j'ai arrêté.
Mais quelle émotion vous ressentiez? C'est une grande émotion de venir faire son dernier match.
Mais je ne l'ai dit à personne. Hein. J'avais décidé moi tout seul, mais je ne l'ai dit à personne.
Vous ne l'avez pas annoncé au public, la presse, tout le monde
non,
serait
non,
venu?
Non, je ne l'ai pas annoncé, je n'ai rien dit. Non, je n'ai pas voulu le dire. Mais Dans ma tête, je le savais.
Et donc, vous étiez ému ?
Un petit peu, parce que je me disais, ben, c'est la dernière fois que je fais, bon, que je suis là, sur le ring, devant tous ces gens-là, qui m'ont suivi depuis tant d'années.
Ça s'est bien passé ?
Très bien, très très bien. Ça s'est parfaitement passé. Et je crois que dans l'ensemble, j'ai laissé un bon souvenir.
Alors, la dernière fois que vous avez enlevé les chaussures, le caleçon,
ah,
tout
oui,
ça ?
Oui, eh ben, j'ai tout ça, chez moi, tout bien, propre, tout ça. C'est dans un coin. Mais ça, je le garde comme ça. C'est une espèce de trophée, quoi.
Oui.
C'est tout. Alors, bon, mais c'est dans un coin. Hein. Je vais pas les regarder tous les jours. Hein. Mais si je tombe dessus, quand j'ouvre, je les vois. Bon.
Mais vous prenez ça avec beaucoup de distance, en fait.
Mais oui, parce qu'il faut... Il faut savoir commencer quelque chose et terminer quelque chose.
Alors, qu'est-ce qui vous amuse aujourd'hui ?
Ce qui m'amuse, eh ben, c'est l'équitation. Ça, j'aime. Et puis alors, je fais ma petite culture physique tous les jours. Je fais mes pompes. Je fais mes 50 pompes tous les matins.
Vous travaillez toujours votre corps.
Ben, écoutez, je ne pourrais pas m'arrêter comme ça. Ce n'est pas possible. Je me suis trop donné physiquement pendant tant d'années pour arrêter d'un seul coup. Je ne pourrais pas.
Mais quand même, 50 pompes tous les matins. Vous avez quel âge ?
J'ai 75 ans.
Ah bah alors, je vais faire 50 pompes à partir de demain.
Comment ?
Si ça donne ce résultat.
Quand on a la forme physique, on n'est pas loin de l'avoir autrement aussi, non ?
Vous avez des enfants ?
J'ai pas des enfants, mais ma femme, qu'est-ce que je dis à ma mère ? C'est drôle, regardez.
Quel
lapsus.
Mais elle fait aussi bien la cuisine que votre mère, alors.
C'est ça. Non, elle a deux garçons.
Ah, pas de catcheur ?
Ah bah non, 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 non.
Vous allez de temps en temps voir des matchs ?
Non. Non, quand j'ai arrêté, j'ai voulu tourner la page. 30 ans dans le même milieu, c'est beaucoup.
Vous n'avez pas ressenti un vide après avoir arrêté ?
Non, parce que je me suis trouvé d'autres occupations. Je me suis trouvé d'autres plaisirs. Je lis beaucoup. Oh, ça, oui.
Ça vous rappelle les rédactions ?
C'est ça, les rédactions que je faisais si bien. C'est vrai, je faisais des bonnes rédactions. Je m'en souviens. C'est drôle que je me souvienne encore. Tellement ça m'avait marqué. Ah ben je crois que j'aurais pu écrire. J'aurais aimé beaucoup.
Être écrivain.
Ah oui, écrire. Ça, j'aurais aimé.
Portrait sensible aujourd'hui, c'était René Benchemoul. René Benchemoul a été champion du monde de catch poids moyen. Allez, une petite moralité pour la route, un petit conseil de Monsieur Benchemoul pour vivre heureux ?
Ne pas avoir de remords, c'est-à-dire ne pas faire de mal à personne. Parce que on n'est pas heureux quand on fait du mal. Et ça, alors, moi je suis content et heureux quand les gens sont heureux autour de moi.
Un lollipop, 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 un lollipop chill. Let me till now way. Let me solve away. When men waste the only
Cat, un duo entre Roseau et Blic Bassi, vous écoutez le NRV France Inter Plus, Chris ce soir. Et pour finir cette semaine d'hommage à l'animatrice Chris, autre portrait sensible avec Denise Serkiewicz, propriétaire d'une boutique de maroquinerie de luxe dégriffée qu'elle considère comme la boutique la plus laide du monde. Un portrait sensible signé Chris le 18 mai 2002.
Moi j'ai 61 ans, je viens seulement d'oser demander à une de mes tantes comment a disparu la famille. On n'en parlait pas, ça. Je pense que c'est la honte des survivants.
Oui. Denise Serkiewicz est née en 39 en plein exode, sur la paille, dans les tables d'un château dans le Loir-et-Cher. Elle dit ça en riant, mais pour la suite, c'était pas vraiment la vie de château.
Moi, mes souvenirs, c'est être à Saint-Just-en-Chevalet, avec ma mère. Et puis un jour, d'ailleurs quand j'ai raconté la scène à ma mère, elle s'en souvenait pas du tout. Elle a mis plusieurs jours à me dire, mais au fond t'as raison. Je me souviens de bruit, de cris, et je me suis mise sur le, enfin, balcon si on veut dire. Et j'étais pieds nus sur un coussin avec un grand pan brodé. Il y avait des messieurs avec des beaux uniformes en bas. Et je leur ai montré ma mère qui arrivait avec un pot à lait à droite. Mais je vois la scène, j'en ai encore des frissons. Et j'ai dit, maman. Et ils l'ont attrapé au col. Ça, c'est mon premier souvenir d'enfant. C'est les gendarmes attrapant au col ma mère.
Qui arrêtait votre mère?
Qui venait pour savoir où était caché mon père. Mmh. Et ça, je ne sais pas. Il était caché dans la nature. Hein. Mmh. D'ailleurs, il a eu la vie sauvée par un curé collabo.
Ah bon?
Qui l'a prévenu qu'on venait l'arrêter. Il était très doué de ses mains. Donc, il faisait l'électricité dans une église. Mmh. Et on est venu le prévenir que les Allemands arrivaient. Et lui, il est parti. Et ce soir-là, j'ai vu mon père arriver avec du sang plein le visage parce qu'il était revenu à vélo et Saint-Just-en-Chevalet, c'est montagneux. Il était tombé, il s'était complètement ouvert la tête. Et j'ai le souvenir de mon père, donc je devais avoir 3-4 ans.
Et tout ça, c'est des souvenirs pendant la guerre.
Oui. Ouais. Puis quelques souvenirs drôles aussi. Il y avait une comtesse dans le village qui trouvait que j'étais bien habillée, bien coiffée, que j'étais jolie. Et j'étais la seule gamine du village qu'on venait chercher dans une petite voiture à cheval pour jouer avec la fille de la comtesse.
Ah, parce que vous plaisiez à la comtesse.
Je plaisais à la comtesse. Ah, il y a des souvenirs, quand même des bons souvenirs. Puis après, j'étais séparée de mes parents. J'étais dans un village, chez des gens très gentils.
Pendant que vos parents fuyaient, c'est ça ?
C'est-à-dire les parents payaient une pension et étaient cachés chez quelqu'un d'autre. Mm-hmm. On était séparés. Mais ma mère me disait, il arrivait un moment où ils avaient envie, à la limite, d'être arrêtés tellement ils avaient marre de se cacher dans les placards, les choses comme ça. Mm-hmm. Puis après, j'étais dans une famille nettement moins gentille. Mm-hmm. Bon, j'étais là, mes parents payaient, mais c'est... Et puis, bon, c'est un hasard, mais je suis tombée en même temps... dans une école de bonnes sœurs où une bonne sœur me battait à la moindre occasion parce que j'étais responsable de la mort de Jésus et je ne comprenais
rien. Voilà.
Oui, mais en plus, je ne savais pas que j'étais différente des autres. Je comprenais
pas que vous étiez juive.
Ben non, j'avais 5 ans. Oui. J'allais à la messe tous les jours, je faisais mes prières matin, midi et soir, donc je ne comprenais pas
Pourquoi ? Et on vous collait la responsabilité de la mort de Jésus. Exactement. Bravo la bonne sœur.
Et à la limite, j'avais pas de camarade de classe puisque j'étais responsable de la mort de Jésus. Alors ça a été une année très difficile. Puis après, j'ai été récupérée par mes parents.
Vous vous souvenez des retrouvailles ?
Oui, pas très agréable parce que j'étais fille unique. Et j'ai retrouvé un petit frère dans le lit que mon papa m'avait fait. Et moi, je dormais sur une planche, sur quatre chaises. Les voisins avaient vidé l'appartement.
Ah bon ? Parce que donc, à ce moment-là, vous êtes rentrée à Paris ?
Oui, je me souviens de la Libération. Oui. On habitait un petit appartement. Je voyais dans la cour d'en face et je me souviens d'une jeune fille qui s'était habillée de bleu, blanc, rouge et qui se coiffait sur un petit balcon. Et j'étais admirative. Et pour moi, c'est vraiment ce jour de fête. Après, on a été sur les grands boulevards, il y avait une foule et une toute petite boutique, ça me donne des frissons. Ouais. Juste à côté du théâtre de la Porte Saint-Martin, il y avait une petite vitrine, donc j'avais 6 ans et ça m'a marqué. Il y avait deux pendus, il y avait Pétain et Hitler en mannequin pendu dans une vitrine. Et j'ai un souvenir de grandes fêtes, de beaucoup de militaires qui devaient défiler de la République, je suppose, aux Champs-Élysées.
Donc là, la vie a repris son cours ?
Bah oui, normal. Et puis une jeunesse, une enfance, bah normal.
Vos parents ont retrouvé leur boutique ?
Après un long procès.
Ah, bon ?
Ah bah oui, parce que naturellement, la concierge, le propriétaire, n'était pas au courant qu'ils étaient là depuis 1935. Donc fallait trouver des témoins et tout ça, prouver qu'ils étaient là, puisqu'ils n'avaient plus de papier non plus. Puisque, bon, je pense que le bail, ils avaient autre chose à emmener que les papiers du magasin quand ils ont quitté Paris. J'ai fait partie de la classe à peu près unique en France qui a été une classe mixte. Ça a été une révolution. On osait mélanger filles et garçons, mais il n'y avait plus de place, ni à Sévigné, ni à Lamartine. Donc, ils ont créé une classe mixte à Jacques-de-Cour. C'était l'horreur pour les bien-pensants.
Et les bien-pensants, Denise Xerievitch a pris l'habitude de se passer de leur opinion. Aujourd'hui, elle tient une boutique de maroquinerie de luxe, dégriffée dans le 18e, qu'elle prend plaisir à appeler la boutique la plus laide du monde. Mais d'ailleurs, déjà adolescente, elle voulait rien faire comme tout le monde.
Mes parents travaillaient très dur. Ma mère suppliait que je fasse des études. Bon, je voulais faire des études d'art. Mm-hmm. Je suis passionnée par l'art. Et puis, je ne supportais pas de les voir travailler aussi dur, d'aller au hall à 4 heures du matin. Donc, j'ai commencé à travailler comme secrétaire. Enfin, une vie classique.
Ouais, pour les aider ?
Pas vraiment pour les aider, parce qu'ils ne voulaient pas de mon petit salaire, mais pour ne pas être à leur charge. Mm-hmm.
Qu'est-ce que vous auriez rêvé de faire dans la vie à cette époque ?
Alors, tout ce qui était interdit aux femmes, en fait. J'étais un garçon
Bravo,
manqué.
Madame.
Un garçon manqué. Je voulais être correspondante de guerre, ce qui ne se faisait pas. Je voulais faire du parachutisme, ce qui ne se faisait pas. Faire l'armée, tout ça. Donc, je passais vraiment... On m'a pris pour une farfelue. Et ça continue.
Mais vous avez fait secrétaire au début.
Oui, c'est pas génial. Et puis, bon, j'aurais aimé, si j'avais fait des études d'art, commissaire-priseur. Mais là, ça se faisait pas non plus.
Et l'amour, alors ? Est-ce que vous étiez une grande amoureuse ?
Non, j'étais trop sérieuse. J'ai eu très peu de flirts. J'ai dû en avoir deux avant mon mari, c'est tout. Et puis, vraiment, des flirts qui feraient rire, qui font rire mon fils, quoi. On se tenait la main. Oh là là, non, trop sérieuse. Maman m'avait dit... Je te fais entièrement confiance, si tu gâches ta vie, c'est la tienne et pas la mienne. Alors, je voulais pas tromper sa confiance, donc sérieux. Hein. Non, je me suis pas amusée. Non, puis j'ai rencontré mon mari.
Ah, comment vous l'avez rencontré ?
Alors, quand les Halles sont partis à Rungis, et on a poussé nos parents à changer de métier parce qu'ils étaient déjà fatigués, et ils vendaient des pulls verts. Et mon mari est rentré acheter un pull vert, et puis, bon...
Comment vous avez fait ? Vous l'avez rattrapé à la sortie en disant comme vous êtes jolie ?
On a conversé, puis il m'a donné rendez-vous. Bon, lui, il a eu une enfance aussi un peu agitée, parce qu'on est de la même origine, mais un peu moins, parce qu'il était avec ses parents.
Quand même, ouais.
Donc, enfin, il a quitté sa grand-mère le mardi, elle a été déportée le mercredi. Donc, enfance un peu traumatisée, et je trouve que ça ressort maintenant. Plus on vieillit, plus on a des cauchemars, plus on a des problèmes. Puis on a essayé, comme tout le monde, d'oublier le passé. c'est la vie. Hein. À côté d'autres, on a eu une belle vie parce que moi, le reste de ma famille ou de la sienne n'a pas eu la chance qu'on a eue. Donc, faut pas se plaindre. C'est pour ça qu'il faut être optimiste.
Donc, vous rencontrez Simon, vous l'épousez rapidement.
Et oui. On a quand même mis. Je l'ai rencontré un 15 décembre, aux environs du 15 décembre, et on s'est mariés l'année d'après, le jour du référendum de Gaulle.
Vous étiez une vraie jeune fille ?
Oui, absolument. Absolument. Oh, mais je crois que c'était la majorité. Hein. En 65, ouais. C'était une majorité.
Et alors lui, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie ?
Alors lui, il a eu un parcours différent. C'était le meilleur élève. Bon, il habitait Montreuil-sous-Bois, le meilleur élève du département. Mais il s'est trouvé que ma belle-mère, c'était en 49, on a découvert qu'elle avait un cancer. Et à l'époque, peu de gens survivaient. À ce moment-là, elle a malheureusement sorti de l'école pour en faire un ouvrier tailleur, alors que lui voulait être archéologue, ce qui n'est pas du tout pareil.
Mais en même temps, vous aimiez l'histoire de l'art, vous aimiez tout ça. Lui voulait être archéologue. Vous aviez des choses à vous dire.
On est totalement opposés. On n'a pas les mêmes goûts. Oh. On n'a pas le même caractère. Lui est un monsieur très cartésien, très silencieux. Quand, autant il a de l'humour, il s'amuse dans sa boutique. Quand il ferme, c'est closed. Il ne parle plus.
Ça va être marrant pour vous.
Oui, de temps en temps, je lui sors un chèque ou un billet de 500 francs et je lui dis « Tu me vends un sac, comme ça on va pouvoir rire. » Oh, j'adore votre rire, Chris.
C'est vous qui le déclenchez. Hein.
Ah ouais, mais moi j'aime beaucoup.
Bon, donc vous l'épousez. Et à ce moment-là, lui, il fait quoi comme métier ?
Alors lui, il travaille dans la couture chez un patron. Et bon, il veut être à son compte, c'est normal. Donc moi, j'avais dit, j'épouserai jamais un commerçant. J'étais fille de commerçant, je veux pas.
Et évidemment, commerce.
Évidemment, commerce.
C'est toujours comme ça, je commence à savoir.
Bon, j'aurais commerce. Si le seul commerce qui m'intéressait, c'était les œuvres d'art, l'orfèvrerie, les tableaux 18e, et je me retrouve dans une maroquinerie. Voilà.
Et voilà, et le temps passe dans la maroquinerie, à l'époque le quartier change, la clientèle classique diminue, et Denise Tserkiewicz et son mari Simon, eh bien comme ils aiment bien rire, ils s'ennuient un brin, alors évidemment elle regarde ce qui se passe autour d'elle.
Il y avait un soldeur de chaussures dans une rue, pas très loin, qui faisait du dégriffé de chaussures, carrel, etc. Et je dis, moi je vais faire la même chose en sac et en foulard. Tout le monde m'a pris pour une folle, mon mari en premier. Et puis, je suis allée dans toutes les grandes maisons, parce que ça n'existait pas. Ça existait en chaussures et en prêt-à-porter, en province.
Pas pour les sacs à main, les beaux foulards, les gants.
Absolument pas. Alors, je suis allée, bon, je ne dirais pas les griffes, mais chez les plus grands. Je me suis fait jeter, mais jeter d'une façon comme si je demandais à mendicité.
C'est-à-dire, vous alliez leur dire, est-ce que vous avez des articles sur les bras, des fins de série ?
Des fins de série. Alors, j'ai mis mon orgueil dans ma poche. J'y suis retournée 6 mois plus tard avec un grand sourire. Mais là, j'ai décidé que je prendrais rendez-vous uniquement avec les PDG ou les directeurs.
C'est facile d'avoir un rendez-vous avec un PDG ou un directeur ?
J'y suis arrivée. Je fais partie des timides. Quand ils ont du culot, ils ont du culot. Et puis, les gens ont sympathisé avec moi. Et j'ai eu les plus grandes marques, comme ça.
Donc, au charme. Au culot.
Charme, j'ai pas tellement de charme. Hein.
Oh, bah tiens.
Mais je sais pas, c'est peut-être que mon culot les a surpris aussi. J'ai osé aussi demander à un voisin de me faire une enseigne en lui disant tout de suite, j'ai pas de sous, vous me faites une enseigne que je vous paierai par des traites, si vous êtes d'accord. Il m'a dit, entre voisins, pas de problème. J'ai fait une enseigne d'une laideur. Tout le monde m'a dit, mais comment t'as pu faire un truc aussi moche ? Écoutez, je me souviens pas, je crois qu'elle était blanche, orange et verte, et elle s'allumait en 3 fois.
Mais c'était exprès ?
Ah ben bien sûr ! Mon but, c'était d'attirer l'œil des automobilistes et des passants. Oui. C'était pas chez moi, c'était pas pour l'esthétique, c'était pour choquer. En tous les cas, à la fin du mois, j'ai payé mon enseigne cash. Le bouche à oreille a fonctionné, et puis j'ai eu des articles dans la presse. Comme on n'avait pas assez de place, à l'époque, on n'avait pas de réserve. Donc, on a supprimé la vitrine et on l'a remplie de marchandises. Et puis, 2-3 fois, des clients nous ont dit, plusieurs fois, j'ai envoyé des amis, ils n'ont pas osé rentrer. Vous avez compris pourquoi, Chris ?
Mais on hésiterait, hein ?
Bien sûr. Alors, un jour, j'ai assisté à une scène des gens très bien, très chics, provinciaux, qui, comme des provinciaux, ils viennent faire leurs courses deux fois par an à Paris à peu près. Et c'était, mais écoute, c'est pas possible, Marie Adélaïde nous envoie ici. Et le monsieur disait, écoute, j'ai l'adresse, si Marie Adélaïde le dit, c'est que c'est ici. Donc, à dater de ce jour, c'est là que j'ai mis mes affiches. La boutique est moche, Sidonie, la boutique la plus laide de Paris.
Ça plaît énormément, ça. Ah. Et alors, le contact avec les clients, c'est important ?
Oh, très important. Oui. Si on était des gens qui aiment profiter... Bon, j'ai un mari qui a horreur de voyager... Moi, ce n'est pas mon cas. C'est pour ça que je vous dis qu'on est jour et la nuit, tous les deux. On est invité aussi bien à Kuala Lumpur que dans un château de Normandie, que à l'ambassade en Israël. Que les clients nous invitent. Mon mari n'a jamais voulu. Les clients viennent nous présenter les fiancés. On fait très beaux mariages. T'es invité à Saint-Louis des Invalides. Ils nous apportent des photos de mariage des enfants. On a des rapports formidables avec les clients.
Et oui, elle voulait être correspondante de guerre, parachutiste ou faire des études d'art pour devenir commissaire-priseur. La vie en a décidé autrement. Elle tient avec son mari une boutique de maroquinerie de luxe dégriffée en plein 18e arrondissement. Et ça marche. Et comme ça marche, eh bien, pourquoi pas se faire plaisir en plus ?
J'ai décidé de retourner à l'école, de prendre des cours de théologie, d'être auditrice à l'école du Louvre. Et de prendre des cours de cuisine au Ritz.
Mais c'est pas évident de se remettre à apprendre comme ça.
Très difficile. Ouais. Alors, la veille du premier cours à l'école du Louvre, mais j'ai pas dormi de la nuit. J'étais excitée comme un petit enfant qui va à la grande école. Parce que j'avais peur de pas savoir synthétiser, retourner à l'école 40 ans après. Ouais. C'est pas évident.
Et vous aimez apprendre?
Ah, j'adore. Oui. Si j'apprends pas une chose par jour, je suis pas heureuse.
Ah bon ?
Les musées, tout ça. Et c'est une deuxième respiration. Bon, je suis asthmatique, j'ai un asthme très sévère. Quand ça va pas, il faut que je voie une expo et j'oublie tout. Mon mari a un mot qui fait pas partie de son vocabulaire, c'est vacances. Lui, il connaît qu'un commandement sur les 10, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front.
Et vous ?
Ah ben, je trouve qu'à 60 ans, il est temps de lever un petit peu le pied. J'adore voyager. Je rentre de Cuba, là. Puis... Mais je ne suis pas douée de mes mains. J'ai deux mains gauches, à mon grand regret.
Il y a du bon dans le fait de vieillir ?
Oui, moi je suis heureuse. Tout le monde m'a dit « Oh, t'es pas traumatisée d'avoir 60 ans ?» Ben non, puisque j'ai failli m'arrêter à 55 trois fois. Alors, je ne suis absolument pas traumatisée de vieillir. On a été jeune, on a été mince. Bon, là, je me suis épanouie de quelques kilos. Ben, je fais avec. Hein.
J'aime bien l'expression épanouir.
Oui, mais ça donne meilleur moral.
Vous y prenez comme ça, vous.
Oui, oui, oui. Je n'ai pas grossi, je me suis épanouie. Moi, je suis optimiste. Et quand je n'ai pas le moral, eh ben, je me dis, tu n'as pas le cancer, tu n'es pas tétraplégique, tu n'as pas sclérose en plaques, alors tais-toi et marche. Et il y a des moments où j'ai eu du mal à marcher, mais... Ça compte pas.
Que vous avez une belle lumière dans les yeux.
C'est gentil. C'est gentil.
Tais-toi et marche. Et oui, c'était le dernier épisode de notre hommage à Chris disparu le 19 novembre 2009. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et pour cette semaine. Lundi, dans le NRV France Inter plus 2, Radioscopie. Et on commencera avec Jean-Paul Sartre. Cette semaine, à la réalisation, Stéphane Combe, préparation, Adrien Azelli et à la technique, Louis Audebert. Tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir et le bon week-end. Alors, à lundi.